Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Si la Cour de sûreté de l'État existait encore, je ne doute pas qu'il y eût été traduit pour haute, très haute dérision envers le politiquement correct. Il canarde fort le lascar, il sulfatise, il dégomme, il déglingue, il dynamite, il ventile, il correctionne, comme dans les meilleurs dialogues de feu Michel Audiard. Il balance pas, il évoque. Si vous ne l'avez jamais vu en spectacle, vous avez raté un truc, c'est sûr. Personne ne trouve grâce à ses yeux. Ma grand-mère Émilie avait une formule toute faite pour résumer ce genre de personnage. C'est quelqu'un qui trouverait à redire au bon Dieu s'il venait à passer. Et pourtant, nulle trace de cynisme chez cet homme-là. Il gratte seulement où ça nous fait mal. La plus insolente de ses saillies est toujours accompagnée d'un demi-sourire complice envers la salle. J'ai bien tenté de découvrir quelques détails qui expliqueraient ceci, qui dévoileraient cela. Que nenni, mesdames et messieurs, que nenni, juste à savoir qu'il a passé son enfance en Algérie, dans une atmosphère à la Camus, pour de vrai, c'est lui qui le dit. Pour la suite, sachez qu'il s'est fait réformer du service militaire après 10 jours passés dans l'armée de terre. Côté professionnel, ses excellentes études lui ont valu d'être diplômé d'HEC de l'Université de Lausanne avant d'être intégré à un poste de gestionnaire de fortune en Suisse. Rôle qu'il va très vite abandonner parce qu'il ne se voit pas de finalité intéressante dans ce travail qui n'est motivé que par l'argent. Intéressant autant que paradoxal, non ? Dans la vie normale, ce serait plutôt le contraire. Il démissionne et part s'installer à Chamonix pour s'adonner à l'alpinisme. Aucun doute sur cette révélation. Tous ceux qui l'ont vu jouer sur scène peuvent témoigner de la musculature de ses mollets. C'est donc avec une curiosité croissante que je vais tenter d'escalader par la face nord la personnalité de celui que j'accueille aujourd'hui en votre nom sur l'antenne d'Europe 1, le génialissime, autant que le mystérieux, Monsieur Gaspard Proust.
Je peux dire bonjour, là ?
Ah, tu peux dire bonjour, tu dis ce que tu veux.
Bonjour.
Alors, moi, je suis ravi de te recevoir et surtout, je suis ravi de connaître tes goûts.
Bah, la question, c'était quoi les 5 chansons françaises de ta vie, enfin, qui sont en rapport avec un truc.
Qui résonnent à quel... Ouais.
Oui, parce que certaines, je les écoute moins aujourd'hui, mais j'en écoute beaucoup plus. Mais donc, j'essaie d'être raccord avec la thématique proposée par l'émission.
Je vais te faire un mauvais jeu de mots, mais toi, les petites Madeleines de Proust, ça te connaît normalement.
C'est la première fois.
C'est la première fois qu'on évoque ça.
Marcel Proust, c'est ça ?
Ben, pas Marcel, c'est Madeleine.
C'est Madeleine.
C'est en fait, on a beaucoup menti au public.
Mais oui.
Bah, il a jamais été écrivain.
Jamais.
Il a été boulanger, pâtissier. Il spécialisé dans la madeleine. Enfin bref, si vous savez pas ça, c'est pas la peine de commencer. Bon, on arrête de rire. Ton premier choix, magnifique, Véronique Sanson, Imouvrini, Le temps est assassin. C'est un live qui date de 1994 au Francophonie de La Rochelle. Ouais. On l'écoute, mesdames et messieurs.
E dal prigionio un'altra onda mi pare dando la miseria ed un po' chi ci può tombare.
Je veux plus rien.
J'ai brûlé mes maîtres et amoureuse, j'ai peur.
lasciare e dal frisogno un'altra onda. Mi pare da un'ua miseria, da un pochino ci tomba.
Véronique Sanson, Imouvrini, Le temps est assassin, c'est le premier choix de mon invité de cet après-midi, Gaspard Proust. Qu'est-ce qui t'a pris de choisir les mots d'une femme pour exprimer cette angoisse du temps qui passe ? Non pas que la chanson de Véronique soit, comment dire, il lui manque quelque chose, parce que c'est une de ses plus belles chansons. Mais c'est rare qu'un garçon passe par ce chemin-là. Tu vois, pour le temps, je me disais, tiens, il va me mettre Léo Ferré ou non, Véronique Sanson.
Non, mais alors peut-être Léo Ferré, oui, c'était une des premières. Mais je la trouve assez solaire pour un thème assez triste. Et c'est par cette chanson que j'ai découvert Véronique Sanson, parce que j'aime beaucoup ce live. D'ailleurs, il y a plein d'autres chansons qui sont bien sur ce live. Et c'est la première chose qui m'a quand même touché, c'est la musique. Parce que c'est vrai, je vais être honnête, hein, je ne collectionne pas les disques de Mouvrini. Mmh. Mais ça fait une espèce de cohérence comme ça qui m'a toujours beaucoup touché. C'était un des... Je sais pas, en plus c'était un disque qu'avaient acheté mes parents, donc ça devait traîner dans le coin et j'y suis toujours revenu.
Non, puis ça fait une œuvre associée complète, enfin comme une petite symphonie, enfin une mini symphonie, puisque
c'est assez dense.
Oui, assez dense parce qu'ils n'ont pas du tout la même approche du phrasé, des rythmiques et tout ça. C'est ça.
Ouais, mais j'aime beaucoup le résultat.
Mais c'est une bonne raison. Et tu penses, toi, c'est ton avis et tu le partages, que le temps est assassin ? C'est un truc que tu ressens dans ta vie, que tu as ressenti ? Quelquefois, encore, jamais.
Sportivement, je le sens, par exemple. C'est un effet assez clair, oui. On voit les gens vieillir, forcément, certains partir. C'est pas très sympa.
C'est pas
le
très
temps.
Cool.
Mais après, je veux dire le temps de là, maintenant. Après, il y a peut-être autre chose ailleurs.
Mais le temps sentimental, ça te fait peur, la beauté qui se fane, les amours déçus les...
Alors ça, c'est un double effet, parce que ça peut aussi être rassurant, parfois. Et, je sais pas, quand on se fait rejeter par une très belle femme, on se dit « attends dans 30 ans ». Donc, c'est aussi rassurant. Vous voyez. Après, c'est vrai que si on passe son temps à être braqué sur le vieillissement, la décrépitude forcément qui arrive, c'est...
Et quand Véro dit, enfin chante et écrit, et je veux plus rien du tout.
Bah on a tous eu cette phase.
Tu penses qu'au bout du temps, on se sent comme ça ?
Non, parce que j'ai connu des... ma grand-mère, par exemple, qui est décédée à 83 ans, quasiment deux semaines avant sa mort, c'est exactement la même que quand elle avait 50 ans, 40 ans. Elle est restée fraîche tout jusqu'au bout. Donc, j'ai jamais eu l'impression que c'est quelqu'un qui a vieilli physiquement. Finalement, on voit pas tellement quand les gens restent là avec l'esprit. Le corps, ça devient un peu secondaire.
Et tout seul, peut-être, mais peinard, comme il y a dans la chanson de Léo, avec le temps. Ça te correspond, ça ? Tout seul, peut-être, mais...
Il y a un équilibre à trouver, mais il y a ces gens qui se rechargent en étant tout le temps avec les autres, et puis ceux qui se rechargent en étant seuls. Alors moi, je suis peut-être plutôt parti de la deuxième catégorie. Et c'est vrai que les moments de solitude, c'est important. Je ne pense pas qu'il puisse avoir que ça, parce que finalement, autrement, je ne viendrai pas chez vous. Je ne ferai pas des spectacles, je n'écrirai pas. Donc à un moment, on cherche un contact, on a besoin, malheureusement, hein, heureusement, j'en sais rien, des autres. Mais j'ai aussi besoin des phases où... moi, je suis très content quand ma famille vient me rendre visite. Je suis très content quand ils partent aussi.
Je connais ça, je connais ça.
Et je pense que tout le monde...
Mais
Tu vas voir qu'avec la solitude, tu n'en as pas fini, mon camarade.
Ah ben, c'est certainement...
Tu n'es pas sorti de l'auberge. Mon invité d'aujourd'hui, Gaspard Proust, on le retrouve dans une minute.
Europe 1, dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Deuxième choix de mon invité, Gaspard Proust, l'affaire Louise Trio. Je ne connaissais pas cette chanson.
C'est pas possible.
Mais je te jure que oui.
Mais c'est pas possible.
Ben, c'est un jeune homme, si je vous le dis.
J'ai une histoire intime d'amour avec ce groupe que j'ai toujours adoré, un peu confidentiel, mais pour moi, c'est mes premiers... je vais pas dire mes premiers émois, mais c'est vraiment... en plus, il y en a deux, je crois, qui sont décédés du groupe, d'ailleurs. Le chanteur et le guitariste, me semble-t-il.
Ah ouais ?
Ouais. Mais c'est... J'ai toujours adoré ce groupe.
Bon, de toute façon, on va commenter tout ça. On l'écoute. L'affaire Louise Trio, ça s'appelle « Loin ».
Dans les dernières lueurs du soir, à l'heure où les amants s'égarent, je t'ai perdu. Pas vu venir les larmes qui ont déchiré notre histoire, car j'étais déjà bien trop loin pour revenir, pour sentir que j'allais trop loin. J'étais si loin, si loin de toi.
C'était l'affaire Louise Trio, Loin. À l'heure où les amants s'égarent, je t'ai perdu sans le vouloir. Je n'ai pas vu venir les larmes qui ont déchiré notre histoire. Il y aurait un Gaspard Proust romantique et sentimental.
Oh, c'était une de mes premières histoires d'amour. Comme quoi, vous voyez, c'est assez récent quand même, parce que cette chanson, elle ne date pas de, de 1980. Non, je souhaite très bien qu'elle est partie et que j'étais attaché et que j'écoutais ça. J'écoutais ça, j'avais un trio. J'écoutais Janis Joplin, Summertime, Loin de l'affaire Louise Trio. Et ensuite, Et Portishead, Give Me a Reason, comment ça s'appelle, demi, je crois.
Ouais,
c'est... Donc je faisais les trois à la suite.
Ouais, c'est
c'était mon moment blues, tristesse.
C'est un beau programme de masochiste sentimental, ça. Ce que tu viens de nous livrer, c'est bien.
Mais moi, la musique, c'est un truc très important. Et comme j'étais un peu un écorché vif, assez passionnel à une certaine époque, enfin, pouvais être très triste. Je me faisais des trucs comme ça. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs.
Ah mais moi,
un garçon un peu des pays de l'Est, un peu pathétique. Et moi, par exemple, je me mettais dernier mouvement de la Tchaïkovski. Et pourquoi suis-je abandonné? Pourquoi suis-je triste? Non, mais tout ça, c'est la fin du monde. Moi, la fin du monde, j'avais 20 ans, tout était déjà fini, quoi.
Donc, tu viens quand même de nous faire une révélation. Tu te souviens du chagrin de ton premier amour?
Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui. Mais alors, c'est les choses dont je me souviens le mieux. C'est les lettres sans réponse.
C'est ça.
C'est tout ça, bien sûr.
Facteur presse le pas, car l'amour n'attend pas, mais le facteur, lui, s'en fout.
Ah
ça.
Oui, tout ça, j'ai connu. Oui. Tout ça, j'ai connu.
Et tu crois que l'amour se meurt faute de combattant, toi?
Ou... Non, l'amour, non. Le véritable amour, on le sait bien, c'est éternel, ça ne meurt jamais, ça.
Et ça t'influence, toi, quand t'écris, par exemple? T'es de meilleure humeur, t'es plus créatif en étant amoureux ou en étant un chouïa désespéré?
Moi, je suis de meilleure humeur quand je suis content d'un truc que j'ai écrit.
Voilà. Oui, c'est...
C'est plutôt ça, moi, qui me rend...
Oui, mais dans ta vie, je suis d'accord, mais dans ta vie, tu ne te sens pas mieux?
Ça va diriger les thèmes, c'est-à-dire que si je suis triste, je vais plutôt aller là, si je suis content... Mais peut-être j'aurais plus tendance. Oui. Enfin, un vrai moteur, moi, c'est l'énervement, par exemple. Un truc qui vraiment me pète les machins. Là, ça, il faut que j'en fasse quelque chose, sinon je vais faire trop de sport. Hein. Donc c'est un peu.
Et regarde, j'avais relevé ça aussi comme phrase. C'est une phrase que j'adore dans une chanson qui s'appelle Rupture, que chantait Serge Reggiani dans les années 70. Il faut être artiste jusqu'au bout des doigts pour sculpter des joies quand la chair est triste. Jean Dréjacques. What you think about?
Tous discutent, Didier, tu sais. On peut trouver un oui, on peut trouver un non, mais...
On peut négocier.
Mais je vais dire la vérité, je crois pas au débat.
Donc, moi qui ai vu tous tes spectacles, je me suis souvent demandé, je me dis, mais il est dans quel état d'esprit, Gaspard, dans sa vie privée, quand il joue comme ça? Parce que j'ai eu l'occasion de te le dire, et j'ai pas peur de le dire en public, c'est un exploit dément, ce que tu fais. C'est-à-dire que tu rentres sur scène, tu nous assènes un texte comme s'il venait de sortir là. On a l'impression, on se dit, tiens, là, il doit improviser. Or, non, tout est écrit, tout est appris, tout a été pensé, construit. Et je me dis, comment il se sent là, ce soir?
C'est là où commence la dimension de travail. C'est comme vous, quand vous faites 1000 fois la même chanson sur scène. C'est-à-dire qu'à un moment...
Ouais.
On peut pas tout le temps se mettre dans l'état d'esprit dans lequel on a créé le truc, mais on le cherche quand même pour que l'authenticité soit rendue aux gens.
Voilà. Mais la chanson, elle bouge pas. Tandis que toi, ce que tu fais...
Non, mais ça bouge pas trop non plus.
Non,
hein.
Je sais, mais on a l'impression que tu viens de le dire là. Et enfin, que ça t'est sorti de la tête là, devant nous.
J'ai envie de dire, c'est le talent du comédien.
Bon, on va s'arrêter là-dessus parce qu'en plus, c'est vrai. On se retrouve avec Gaspard Proust dans quelques instants.
Europe 1, dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Troisième choix de mon invité Gaspard Proust cet après-midi. Alors là, va y avoir à causer, mesdames et messieurs, parce que vous allez voir, c'est une chanson, alors pour le coup, pas forcément nostalgique, et qui traite d'un sujet absolument essentiel. Ça s'appelle « Au secours tout seul », c'est William Scheller.
La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Et si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi les choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Pour des histoires que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage un matin. Et je regarde ceux qui se lument aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Et si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi les choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. L'histoire est bizarre, je sais, mais je peux pas m'arrêter vu qu'il n'y a plus de nom sur les gares. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. S'endorment aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Où je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul.
William Scheller, au secours tout seul. Alors là, ma question, elle va être bunchy direct, elle va te mettre KO sur place.
Ah oui ?
À quel âge on entre en solitude ? Parce qu'en fait, là, le mec, il raconte plein de trucs qu'il a pu voir dans sa vie et tout ça. Mais non, l'essentiel, c'est qu'il est seul au milieu de ce monde qui s'agite autour de lui. Ou tout ce côté urbain disparaît. D'ailleurs, t'as vu, elle ne correspond pas, cette chanson, à la version originale de 80. Mm-hmm. Elle est très... en réflexion, celle-là, je dirais.
Dans la version ancienne, c'est, je peux pas dire que c'est un peu une soupe, c'est beaucoup plus dilué, c'est beaucoup plus mou. Mmh. Et là, c'est beaucoup plus sec et ça avance. Et moi, ça m'a vraiment... pour moi, ce gars-là, c'est une espèce de Tori Amos à la française, quoi. Surtout quand je l'ai que lui et le piano. Moi, et j'adore le piano comme ça. Mmh. Moi, je me suis toujours senti seul. Et la question, c'est pas tant à quel moment on rentre en solitude, mais à quel moment et comment on en sort. Avec qui, quoi, comment. Mais moi, la solitude, toujours.
Et d'après toi, on est seul, on meurt seul ?
Ah bah évidemment.
Ouais.
C'est rare hein, que
qu'on meure à plusieurs fois, mais...
que je sais pas, le mari ou la femme viennent de décéder, le dit bah tu sais, je t'aime, je te suis quoi. Enfin,
Non, mais dans ta tête, quand on est, on se souvient pas de notre naissance. Tu te souviens pas, moi non plus.
Bah, on vient de quelque part, on va quelque part, mais au milieu, on doit quand même globalement se débrouiller seul.
Ouais, il faut meubler.
Ou grandir, ou...
Vivre.
C'est un peu pessimiste, Barbelivien.
Bah, ouais, je sais pas, c'est un peu sur la solitude. Je veux pas plomber l'après-midi de ceux qui nous écoutent, mais c'est une chanson qui semble légère, cette chanson de William, et qui l'est pas du tout pour moi. L'idée de courir tout seul, ou quand il dit j'irai jusqu'au bout du chemin et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. C'est pas moi qui ai choisi ça, les gars.
Ouais, mais c'est marrant, mais vous écoutez plus le texte que la musique. Ben, moi, vraiment, moi, c'est plus la musique qui m'imprègne.
Ah ben non, ben, un peu là pour ça.
Ah ben non, mais moi, le texte, c'est pas.
Me dis pas que t'écoutes pas les textes des chansons.
Alors, il y a une chanson que j'ai voulu mettre.
Il est coquinou, hein, il est coquinou.
Il y a une chanson que j'ai voulu mettre et finalement, je me suis retenu, c'était Marre de cette nana-là de Bruel. C'est une chanson que j'adore. Alors que le texte, c'est pas un intérêt, c'est pas Platon, quoi.
Non, mais c'est un texte.
Mais j'adore cette ambiance années 80, surchargée de basses, etc. Je la trouve... J'adore cette chanson, vous voyez. Gaspard Proust, Patrick Bruel, mais qu'est-ce qui se passe?
Mais non,
mais j'assume, vous voyez.
Mais il faut l'assumer, camarade. Moi, quand j'écris à toutes les filles que j'ai aimées avant, tu crois que j'assume pas? La chanson du mythomane, on dirait que j'en ai connu 252.
Je ne connais pas cette chanson, je ne vais pas mentir, mais elle est super.
Mais tu l'entendras
mais
un jour.
Mais j'écouterai toutes vos chansons à la sortie de ce studio. Parce que j'aurais dû préparer moi aussi l'émission. Non. Et c'est vrai que je suis un mauvais camarade. Parce qu'on m'a dit Didier Barbelivien, bien sûr, Sarbacane. Pas du tout.
Évidemment, Sarbacane. Et dis-moi, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. C'est important d'être aimé quand même.
C'est le drame de l'être humain, c'est que malgré tout, c'est terrible. Et je pense vraiment que c'est une souffrance, c'est qu'on préfère être aimé que ne pas aimer. Oui, même moi, je dis ça. Mais il y a une limite. C'est pas, ça ne peut pas être à n'importe quel prix. Ouais. C'est-à-dire que si ça commence, si on doit se vendre pour être aimé ou plus être soi, ça devient un problème. Mais malheureusement, Didier Barulien, c'est un aveu. Je préfère être aimé que pas être aimé.
Voilà.
Mais j'en ai honte. Voyez, je vous assure que j'en ai honte.
Surtout, tu as déclaré que tu continuais de vivre assez bien avec toi-même. Je veux dire, là, tu confirmes le propos, j'imagine. Il n'y a pas de dispute. Gaspard se dispute pas avec Proust et Proust avec Gaspard.
C'est jamais agréable de se sentir divisé intérieurement.
C'est une jolie formule, on se retrouve après la pub. France Gall, Monopolis, une des plus jolies chansons, je le redis, de la comédie musicale Starmania, qui revient bientôt à Paris. Comment tu l'as entendue celle-là la première fois, toi, Gaspard?
Alors Starmania, c'est quelque chose que, à nouveau, c'est un disque qui traînait chez mes parents. C'est pas la première chanson vers laquelle on va. Il y a des choses plus évidentes. Mmh. Et puis petit à petit, elle s'est imposée naturellement. Moi, je trouve hallucinant qu'un texte écrit en 78-79, donc voir tout ce qui allait arriver, l'écrire à ce moment-là, avec 30 ans d'avance, je trouve c'est là, pour le coup, le texte et la chanson sont, je trouve ça incroyable. C'est une des plus belles chansons pour moi qui a été écrite. Avec ce qui est visionnaire, mais c'est incroyable. Voilà.
Et c'est contre ça que tu luttes, toi? Ça te désespère un peu quand même de voir tout ça? Moi qui suis plus âgé que toi, j'ai eu le temps de me
préparer. Quand mes parents me font la morale, j'accepte. Ça s'arrête là. Mm. Je n'ai pas eu la majorité pour que des gens que je ne connais pas viennent m'expliquer la vie, ceci, cela, quelle est la posture, machin. C'est les gens au slip sale qui vous expliquent comment laver le sien, j'aime pas beaucoup ça.
Mais t'as le sentiment, on va devenir tous des Chinois, on l'est déjà. C'est-à-dire qu'on marche tous sous des mots d'ordre. Est-ce qu'on n'est qu'une foule ou est-ce qu'on est encore des individus?
La problématique de l'homme, c'est comment gérer l'angoisse d'exister. Donc quand quelqu'un la prend en charge, que ce soit l'État ou je ne sais qui, c'est toujours, il y a de manière perverse un confort chez l'homme pour se laisser aller, je pense, à la chaleur du troupeau. Parce que l'homme a besoin de tendresse, naturellement. J'essaye d'éviter cet écueil, même si je ne reste pas moi un homme.
Mais
est-ce que je réponds à la
non,
question?
Non, c'est magnifique, c'est
mais
magnifique.
Peut-être
non,
que
non,
c'est
mais
pas l'endroit idéal ou le moment, mais c'est.
Si.
Je, pas près, de par mon histoire, je me suis toujours méfié des élans collectifs, surtout quand c'était au nom du bien et que j'ai vu
ce que
ça a donné. Donc je me méfie, je me méfie.
Tu te sens mieux dans ce siècle ou tu fais un peu partie du siècle d'avant?
On ne peut pas réfléchir comme ça, on ne connaît pas le siècle d'avant. Moi, quand je...
Bah si,
non,
t'es né en quelle année?
Ah oui, alors oui, mais c'est peut-être la nostalgie de l'enfance. Moi, je suis né en 76, alors pour moi, les années 80, alors que Marre de cette nana-là, c'est cette ambiance-là. Enfin, les gens ne montaient pas sur leurs grands chevaux pour un oui, pour un non. C'était beaucoup plus... Mais peut-être parce que c'est un truc associé à l'enfance. J'ai quand même... Après, mais il y a eu d'autres problèmes à ce moment-là. Il y a eu d'un coup cette maladie, le sida, qui est apparue. Je me souviens déjà en tant qu'enfant, mais qu'est-ce que c'est que c'est... Enfin, il y avait d'autres choses tragiques. Il y avait les famines en Afrique. Enfin, c'était. Il y avait d'autres problèmes.
Pour un an, c'est né en 76. Pour un enfant de 8 ans, quand tu allumes la télé, c'est un peu chaud. Ouais. Entre le sida, les problèmes de la faim dans le monde et tout ça. Et puis ça s'est beaucoup arrangé. Il faut dire ce qu'il y a. Les maladies contagieuses, le sida, la faim dans le monde, tout ça, c'est fini.
Pour les passer, aujourd'hui, c'est plus une chape morale, quoi. C'est plus ça. Mais tout ça. Ah oui, qu'est-ce que. Ah oui, non, je t'ai pas écouté. Alors, c'est peut-être de l'ironie. Tout ça, c'est fini, la faim dans le monde. Mais oui, il n'y a plus de guerre, il n'y a
fini.
Plus de.
Bah, non.
Non, mais non, aujourd'hui, on est sur des sujets très basiques. Est-ce qu'il y aura du gaz en hiver ?
C'est voilà. Ça.
Comment faire le cassoulet ? Ça, vous voyez, on en arrive toujours. On est en France, à un moment ou à un autre. On en arrive à la cuisine. C'est un truc.
Il y avait cette phrase que j'avais adorée du comédien Daniel Prévost qui avait dit « Et avant de refaire le monde, si on refaisait plutôt des merguez. »
C'est ça.
Elle nous voit, celle-là.
Oui, c'est ça.
Elle
oui,
nous voit. Ça. Non, mais sans rire.
Et de finir le déjeuner et dire « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?»
Oui. Voilà. C'est un peu la préoccupation.
Ça, c'est une définition de la France, c'est ça.
Et c'est vrai que ça arrive, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Bon, les gars, faut enchaîner, c'est pas facile. Avec Julien Clerc, quand je joue. Julien Clerc, quand je joue, c'était le dernier choix de mon invité Gaspard Proust. Toujours un texte de Plamondon, c'est un petit faible pour les auteurs québécois, mais c'est bien parce que Plamondon, c'est beaucoup de talent. Et là, je vais te faire un enchaînement à la Danielle Gilbert des années 70. Mmh. Je sais que tu vas me dire que tu ne l'as pas connue, que tu ne l'as jamais vue, machin. Mais ce n'est pas grave.
Si, je tiens une liste des ex de Giscard. Donc,
Oui, alors là. Mais il sait tout, ce jeune homme. Bon, quand je joue, et quand tu joues, toi, à partir du 16 septembre 2022, tu vas aller jouer Demain la revanche. Une pièce de Sébastien Thierry, mise en scène de Ladislas Chola. Le public le connaît, Ladislas Chola. Il n'en est pas à son coup d'essai. Mm-hmm. Est-ce que c'est bien envoyé, bien enchaîné ?
C'est parfait, oui. Il y a une vraie cohérence.
On frôle la perfection. On n'a pas dit au Théâtre Antoine. 14 boulevard de Strasbourg, 75 000 10, Paris. Allez, tant pis, soyons fous, j'envoie le téléphone. Si, tant pis. Non, je le fais quand même. 01 42 08 77 71. On ne peut pas faire plus, non
C'est bien comme
promo. Je préfère Madame Pipi, mais là, c'est
non,
pas...
Non, là, les gens, ils ont l'info.
C'est bien mm-hmm. Mm-hmm. Et toi, pourquoi tu es arrivé avec l'info de quand je joue? C'est un truc que...
C'est quand je répétais le premier spectacle, je faisais des résidences à Nantes.
Et
je suis tombé sur cette chanson que j'écoutais en boucle. Je trouve joyeuse, gaie, vivante. Ouais. J'adore le talent de mélodiste de Julien Clerc.
Ouais,
elle est simple, le texte est bien. En plus, il y a ce truc, encore, on en revient à les années 80, cette enveloppe, cette surcharge. Mais en fait, je pense que ça doit évoquer l'enfance. Donc, c'est un truc... Non, j'adore cette chanson.
Et alors là, on va rentrer dans l'intime avant de se séparer. Parce que
c'est là où je m'en vais.
Oui, c'est là où tu t'en vas, mais tu restes une seconde encore. Que sont devenues les chansons que tu écrivais adolescent ? Ah, ne me dis pas que tu n'en écrivais pas.
J'en ai.
Tu en as ?
J'en ai. J'en ai, parce que au début, avant d'embrasser cette carrière d'humoriste, mes premiers spectacles, c'était moitié chanson et moitié... j'étais à la guitare, un peu, c'était l'époque de l'air, mes compagnies.
Ouais.
Donc je faisais mon intéressant aussi avec ça. Et d'ailleurs, mes chansons faisaient plus rire que le texte qui suivait. Donc j'ai encore quelques chansons qui traînent, mais je te ferai écouter à l'occasion.
Avec plaisir.
Tu produiras le disque.
Je pense.
Et avec la recette, on partira au fleu bleu.
Écoute, Gaspard.
Mais en week-end, hein, pas en semaine.
En week-end, non. Écoute, ça a été un plaisir de te recevoir. J'ai envie de dire à nos auditeurs, et ils ont aussi le plaisir de t'entendre sur cette antenne tous les mercredis matins, si je ne me trompe, si je ne m'abuse.
Si on en parle encore aujourd'hui, c'est que la chronique a été reconduite.
Et au Théâtre Antoine, bien sûr. J'ai adoré ce moment passé avec toi. Tu reviens quand tu veux. Si tu ne viens pas, tu sais ce que dit le proverbe. Si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi. Je sais dans quel studio tu travailles, dans cette maison. Je vous embrasse à tous. Merci Gaspard.
Merci Didier.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Et oui, dis-moi ce que tu chantes. Et toujours la même équipe, la merveilleuse Maryse Jacquet à mes côtés, Rémi Duprat pour la réalisation, Benoît Valentin pour la documentation, René Aubry pour ce générique merveilleux. Et ma chère Stéphanie Loire que nous retrouvons tout de suite. Comment ça va, Stéphanie ?
Ça va, Didier. Je suis ravie de retrouver les auditeurs d'Europe 1 pour musique. Aujourd'hui, mes invités, ce sont Louis Chédid et Yvan Cassard. J'espère que vous serez des nôtres.